Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français en 2016 sous le titre « La grande dissimulation, histoire secrète de l'UA ». Cet essai de Christopher Booker et Richard North, bien que l'édition soit parfois cataloguée sous le seul nom de Booker, propose une lecture très critique de la construction européenne. Adaptée et actualisée à partir de « The Great Deception » paru en anglais en 2003, l'ouvrage couvre une longue période. Des projets d'organisation continentale du début du XXe siècle jusqu'aux crises politiques précédant le référendum britannique de juin 2016. Les auteurs, issus du journalisme et de la recherche au Parlement européen, soutiennent que l'intégration européenne s'est développée par des mécanismes institutionnels peu lisibles pour les citoyens et par un déplacement progressif du pouvoir vers des instances supranationales, préfacée dans sa version française par Jacques Sapir. Cette enquête ne constitue pas une histoire consensuelle de l'Union européenne, elle défend une thèse engagée, eurosceptique et documentée. Son intérêt réside autant dans les questions qu'elle pose sur la souveraineté et la responsabilité démocratique que dans la controverse suscitée par ses interprétations. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la thèse centrale, une intégration présentée comme graduelle et insuffisamment explicitée. Le fil directeur de « La grande dissimulation » est l'idée que l'intégration européenne ne doit pas être comprise comme la simple coopération volontaire entre États souverains, mais comme une transformation graduelle de la nature du gouvernement en Europe. Booker et North qualifient ce processus de « coup d'État au ralenti ». Formule polémique qui résume leur accusation des décisions institutionnelles successives aurait produit un ordre supranational sans que sa finalité fédérale soit clairement soumise au peuple. Leur raisonnement ne consiste pas seulement à dénoncer Bruxelles comme centre administratif. Ils cherchent à relier traités, procédures communautaires et compromis politiques dans une même dynamique de transfert de compétences. Les auteurs estiment que le langage de la paix, de la modernisation économique et de l'efficacité administrative a fréquemment rendu ce transfert plus acceptable qu'une annonce explicite d'abandon de souveraineté. Cette grille de lecture explique le titre français plus accusateur que le titre anglais « The Great Deception ». Elle impose toutefois une lecture critique. L'ouvrage défend une interprétation forte des intentions des bâtisseurs européens et ne doit pas être confondu avec une synthèse historiographique neutre. Sa valeur analytique tient donc aussi à l'examen des conditions de transparence, de consentement et de contrôle qui accompagnent toute délégation de pouvoir politique. Deuxièmement, Jean Monnet et les origines intellectuelles du projet supranational. Une place majeure est accordée à Jean Monnet, figure habituellement célébrée comme l'un des principaux inspirateurs de la construction européenne. Booker et North en font au contraire le symbole d'une méthode politique privilégiant des institutions supranationales, relativement autonomes à l'égard des parlements nationaux. Ils reviennent sur ses projets anciens et sur son rôle dans les initiatives qui ont préparé ou accompagné l'organisation économique et politique de l'Europe après les guerres mondiales. Pour les auteurs, l'enjeu n'est pas seulement biographique. Monnet incarne une conception selon laquelle l'interdépendance économique, administrée par des organes spécialisés, peut conduire progressivement à l'unité politique. Cette conception est opposée à une Europe fondée d'abord sur la coopération entre gouvernements responsables devant leurs électeurs. Le livre examine aussi les relations transatlantiques attribuées à certains réseaux favorables à l'intégration, y compris les liens allégués avec les États-Unis. Ces éléments sont centraux dans sa démonstration, mais appellent une prudence méthodologique distinguer les documents établissant des contacts, des financements ou des convergences stratégiques, d'une preuve d'un contrôle univoque du projet européen. Le mérite du chapitre monétiste est de déplacer le débat vers les idées institutionnelles. Sa limite est de tendre à concentrer sur une personnalité, une dynamique historique portée par de nombreux acteurs et États. Troisièmement, du pouvoir parlementaire au pouvoir administratif, la critique des mécanismes communautaires. L'ouvrage s'attache aux mécanismes concrets par lesquels la décision européenne se forme négociation intergouvernementale, rôle des administrations, poids de la Commission, production de normes et influence des groupes d'intérêt à Bruxelles. Booker et North soutiennent que ces mécanismes favorisent une forme de gouvernement où l'expertise et la continuité bureaucratique prennent le pas sur le débat électoral. Leur critique ne vise donc pas uniquement l'existence d'institutions communes. Elle concerne la difficulté, pour les électeurs, d'identifier qui décide, selon quel mandat et avec quelles possibilités de sanctions politiques. Cette question devient particulièrement importante lorsque les compétences européennes touchent à des domaines traditionnellement associés à la souveraineté nationale droit, économie, réglementation ou politique extérieure. Les auteurs interprètent la complexité institutionnelle non comme un effet secondaire regrettable, mais comme un facteur qui protège l'intégration de la contestation démocratique. Cette conclusion est discutable, car la complexité peut aussi résulter de la nécessité de concilier des États aux intérêts divergents. Néanmoins, le livre rend utilement visible un problème classique de l'Union, l'écart entre la technicité des procédures et l'intelligibilité publique des choix. Il invite ainsi à examiner les institutions non seulement selon leurs objectifs proclamés, mais aussi selon leur chaîne réelle de responsabilité. Quatrièmement, le regard britannique, une histoire de l'Europe relue depuis le Royaume-Uni, la singularité de la grande dissimulation, vient largement de son point de vue britannique. Les auteurs replacent l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes, ses conflits avec les partenaires continentaux et sa relation aux États-Unis dans une histoire plus longue des choix nationaux britanniques. Cette perspective permet de comprendre pourquoi la question européenne a pris au Royaume-Uni une dimension constitutionnelle particulièrement aiguë, elle n'y était pas seulement associée aux échanges économiques, mais à l'autorité du Parlement et à la capacité du pays à décider de ses règles. Booker et North contestent l'image simpliste d'une Grande-Bretagne extérieure ou uniquement obstructionniste. Ils décrivent plutôt une succession de calculs politiques, de malentendus sur la nature du projet communautaire et de compromis dont les conséquences ont été durablement sous-estimées. L'édition française, parue peu avant le vote du Brexit, donne à cette analyse une résonance particulière. Même si le texte doit être lu comme l'expression d'un euroscepticisme britannique, argumenté plutôt que comme une explication exhaustive du référendum, pour un lectorat francophone. L'intérêt est de confronter les récits plus familiers de la réconciliation franco-allemande à une tradition britannique méfiante envers le fédéralisme. Cette comparaison éclaire les divergences de culture politique qui ont structuré les débats européens. En dernier lieu, une enquête à charge apporte documentaire. Controverses et limites d'interprétation. Le livre se présente comme le résultat d'une enquête de longue durée et se distingue par son ambition documentaire. Il rapproche épisodes diplomatiques, projets institutionnels, acteurs politiques et débats publics sur plusieurs décennies. Cette ampleur explique son intérêt pour les lecteurs qui cherchent une contre-histoire de l'intégration européenne, attentive aux négociations peu visibles et aux effets cumulés des décisions. La préface de Jacques Sapir souligne d'ailleurs l'utilité d'un tel travail pour interroger les zones d'ombre du fédéralisme européen. Mais la force polémique de l'ouvrage est également sa principale limite. L'expression même de dissimulation suppose une cohérence d'intention et une orientation dissimulée que l'historiographie ne traite pas nécessairement de manière aussi unifiée. Les institutions européennes sont issues de conflits, de compromis et de révisions successives. Les réduire à un plan unique risque d'atténuer la pluralité des motivations, notamment la reconstruction d'après-guerre, la recherche de stabilité et les intérêts économiques divergents. Une lecture rigoureuse doit donc distinguer les faits rapportés, les sources mobilisées et l'interprétation générale qui les relie. Cette réserve ne rend pas l'essai inutile. Elle en précise le bon usage. Il est particulièrement fécond lorsqu'il pousse à vérifier les récits institutionnels convenus, moins lorsqu'il est reçu comme une explication définitive et exclusive de toute l'histoire européenne. En conclusion, la grande dissimulation s'adresse en priorité aux lecteurs déjà intéressés par l'histoire politique de l'Europe, le Brexit, les traités européens et les débats sur la souveraineté nationale. Il conviendra aussi aux personnes qui souhaitent comprendre pourquoi une partie importante de l'opinion britannique a perçu l'intégration européenne non comme une coopération pragmatique, mais comme une modification profonde de l'ordre constitutionnel. Le bénéfice intellectuel du livre est de rendre visibles les procédures, les réseaux d'influence et les choix administratifs qui restent souvent en arrière-plan des récits célébrant la paix et la réconciliation européenne. Il force le lecteur à poser des questions précises: quels pouvoirs ont été transférés, par quelles procédures, avec quel contrôle démocratique et dans quel langage politique. Ce qui le distingue des histoires générales de l'Union européenne est son angle résolument contradictoire. Là où beaucoup de synthèses décrivent la construction communautaire comme une réponse nécessaire aux catastrophes du XXe siècle, Booker et North examinent le coût politique potentiel de cette réponse dilution de la responsabilité parlementaire. Opacité des compromis et difficulté à obtenir un consentement populaire éclairé. Cette position à charge impose de compléter la lecture par des travaux d'historiens aux conclusions différentes. Toutefois, sa richesse documentaire, son ampleur chronologique et son regard britannique en font un contrepoint utile au récit institutionnel plus classique. Ce n'est pas un manuel impartial, mais un essai de débat qui aide à analyser les tensions persistantes entre intégration supranationale, démocratie représentative et souveraineté des États. Si vous souhaitez soutenir Christopher Booker, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.